Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM 105.1, ici Guillaume, et j'ai le plaisir de retrouver au micro Mansour, notre spécialiste de l'Afrique et des Caraïbes. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler politique et géopolitique, mais aussi un petit peu culture, en revenant sur Cuba et les relations entre Cuba et l'Afrique, puisque Fidel Castro vient de nous quitter. Le père de la révolution cubaine est mort donc le 26 novembre dernier. Il avait 90 ans, donc ça va nous permettre de parler un petit peu de Cuba et des relations avec l'Afrique. Bonjour Mansour.
Bonjour Guillaume, je m'excuse pour la voix un peu enrouillée, je suis un peu grippé.
Et oui, ça arrive en décembre, c'est normal. Soigne-toi bien, on te souhaite de te remettre vite. Alors dans cette chronique, est-ce que tu vas commencer par nous rappeler un petit peu le contexte peut-être historique entre l'Afrique et Cuba, l'intervention militaire de Cuba en Afrique dans les années depuis la révolution finalement cubaine jusqu'à la fin des années 80, il y a eu ces relations un petit peu mitigées et Cuba a aidé un certain nombre de puissances africaines ou de révolutionnaires africains peut-être. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça qui symbolise finalement vraiment la guerre froide transposée jusqu'en Afrique?
C'est vrai, Cuba était au centre de la guerre froide, mais ce serait intéressant de savoir qui est Fidel Castro, si vous le permettez.
Absolument.
Il est né à Cuba d'un père immigré espagnol qui
D'accord.
a fait fortune dans la canne à sucre. Il a fait des études de droit, il est devenu avocat très vite,
oui.
Sauf qu'il n'a pas exercé sa profession, il est devenu très, très rapidement révolutionnaire professionnel, et c'est dans ce cadre précis qu'il s'est attaqué à une caserne. Il fallait être très osé à l'époque.
Ah oui, en effet.
Donc il a été en prison, il a été amnistié. Il fallait vraiment qu'il s'exile un peu pour organiser la révolution. Alors il est parti au Mexique. C'est là où il a rencontré Che Guevara. Ils ont organisé, et puis en 56, ils ont débarqué clandestinement à Cuba. Et ils sont réfugiés dans les montagnes, et c'est là où ils ont fait leur guérilla.
La fameuse guérilla.
En 59, ils ont réussi à chasser Batista, qui était considéré comme dictateur.
Oui, alors on rappelle que c'était un dictateur plutôt de droite, et puis soutenu par les États-Unis, qui avait beaucoup d'influence à Cuba jusqu'à présent.
Et donc, en 59, 8 janvier précisément, Castro et ses amis rentrent triomphalement dans la capitale. Ils entreprennent rapidement la transformation politique, économique et sociale de l'île.
Oui.
Ce qui n'est pas du goût des États-Unis, qui en 61, rapidement en janvier, ils suspendent les relations diplomatiques. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ils arment des Cubains et les encouragent à envahir Cuba.
Et oui, parce que il faut rappeler que les États-Unis avaient tout un tas d'intérêts, notamment les casinos, et puis c'était une île touristique qui drainait beaucoup d'argent pour les États-Unis. Donc ils voyaient certainement un très mauvais œil ce jeune révolutionnaire barbu arriver avec ses barbudos. Il faut aussi peut-être rappeler qu'il n'était pas encore véritablement communiste à l'époque.
Non, c'était des socialistes. C'était des socialistes. Alors, c'était le Cuba, c'était la chasse gardée des États-Unis. Donc, ils ne pouvaient pas accepter quoi qu'il y ait des révolutionnaires qui remettaient tout en cause. Mais l'opération des Cubains qui ont été aidés par la CIA a échoué. Février, les États-Unis imposent un embargo économique qui est total.
Oui.
Ça ne va plus vraiment les Soviétiques. Qu'est-ce qu'ils font, les Soviétiques? Ils installent des missiles croisières à Cuba, donc en face des États-Unis.
Le fameux épisode, on a été au bord de la Troisième Guerre mondiale à une guerre nucléaire à ce moment-là.
Alors le monde a retenu son souffle. Il y a une crise politico-militaire entre Washington et Moscou. On crée une guerre nucléaire. Finalement, à la dernière heure, il y a un compromis entre les Soviétiques qui retirent leurs missiles et les États-Unis qui renoncent définitivement à envahir Cuba.
Et oui, il y avait une tentative de débarquement dans la baie des Cochons. On se rappelle aussi de ça, c'était en 62, je crois.
C'est ça, 62, exactement. Bon, finalement, c'est ça qu'on peut retenir sur Cuba, sur Castro. Il est malade en 2006, il délègue son pouvoir temporairement à son petit frère. Comment ça s'appelle ?
Raoul.
Raoul, voilà, merci. En 2008, finalement, il renonce définitivement au pouvoir et en 2016, il meurt finalement. Donc voilà en gros ce qui est Fidel Castro et son cheminement.
Voilà, donc soutenu finalement par l'URSS jusqu'à la fin de la chute du mur de Berlin. Et puis ensuite, disons que l'île a vécu dans une sorte d'isolation à peu près totale avec des périodes assez difficiles jusqu'à des récentes ouvertures. Alors est-ce que tu peux revenir peut-être maintenant sur les relations interculturelles et politiques entre Cuba et l'Afrique, puisque c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement?
Donc, début des années 60, Cuba ne parvenait vraiment... Il a eu des difficultés à exporter sa révolution dans les pays latins, Argentine, Brésil, des choses comme ça, parce que c'était la chasse gardée des États-Unis.
Oui, oui, oui.
Alors, finalement, les révolutionnaires cubains ont dit ben, l'Afrique doit être propice pour exporter notre révolution. Tout simplement parce que l'Afrique, les pays majoritairement venaient tout juste de connaître, d'avoir leur indépendance.
Oui.
Dans les années 60, en 60 précisément. Et il y avait beaucoup de territoires, de colonies qui luttaient pour leur émancipation.
Absolument.
Donc, il y a certains révolutionnaires comme Augustino Neto, Angola,
oui.
Lumumba, Kinshasa, Amilcar Cabral, en Guinée-Bissau, qui ont fait appel aux guérilleros cubains pour les aider dans leur lutte de libération. Ils sont partis, hein, ils sont allés très vite. Alors, ça c'est politique, hein, sur le plan politique. Sur le plan culturel, on peut dire que Cuba et l'Afrique ont des proximités, une proximité et des affinités.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé les esclaves qui étaient déportés en à Cuba, on les a vraiment dépouillés de tout. Ils sont retrouvés sans rien, pas d'enfants, pas de papa, pas de maman, pas d'argent. Par contre, on n'a pas réussi à leur enlever leur cosmogonie, c'est-à-dire leur religion, leur croyance, leur façon de voir la vie, leur danse et autres. Donc, ils sont débarqués dans l'île avec leur lait culturel.
Absolument. Venu d'Afrique.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contribué à leur façon à façonner la culture cubaine. Et l'aspect le plus perceptible, c'est dans la musique cubaine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50-60, lorsque les Africains qui sont restés en Afrique, lorsqu'ils ont entendu la musique cubaine, ils ont rapidement, ils sont reconnus dans les percussions, le rythme de cette musique cubaine. Alors, ils sont appropriés rapidement à cette musique et très vite, ils ont formé des groupes cubains. Et dans les années 50-60, la danse qui était à la mode, c'était vraiment la musique cubaine. Et ça s'est dansé dans toutes les grandes villes.
Dans les villes d'Afrique, là, tu parles?
Dans les grandes villes africaines.
Incroyable.
Je pense à Kinshasa, Abidjan, Dakar et autres.
Ouais.
Vous voyez donc que c'est comme un retour aux sources de la musique, quoi, de la musique ou de la culture africaine.
Donc en fait, là, finalement, la musique cubaine est allée influencer la musique africaine après que la musique africaine ait influencé l'île de Cuba.
Très bien, tu as tout compris.
J'ai compris, j'ai suivi.
Bon, maintenant, pour les influences politiques et militaires en Afrique, Cuba a été partout, en Afrique du Nord. Ça a commencé en 60-61. 61, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'Algérie qui était en pleine guerre d'indépendance contre la France.
Oui.
Alors, comment il s'appelle encore?
Ben Bella.
Ben Bella, merci. Waouh, tu as une culture incroyable.
Ah,
Ben
c'est Bella. Ce sont mes racines de mes vieux cours d'histoire de l'université.
Il y a Ben Bella qui a fait appel à Cuba et voilà, ils ont envoyé des armes.
Oui.
Ça, c'était en 61, deux ans après qu'il ait accédé au pouvoir. En 63, il envoie encore des armes et des soldats à soutenir Ben Bella parce qu'il y avait la guerre des sables qui l'opposait au Maroc.
C'est ça.
Ça, c'était l'épisode d'Amérique du Nord. Ensuite, il fallait envoyer il fallait aller en Afrique parce qu'il y a il y avait une rébellion au Congo Kinshasa,
oui, oui.
L'actuel RDC.
C'est ça.
Alors on a envoyé Che Guevara.
Voilà, lui-même est allé physiquement sur place soutenir Lumumba.
Il est resté 7 mois là-bas. Il a failli être tué par la CIA parce que il y avait une rébellion. Il devait animer donc le maquis des Simba. Il se trouve dans l'est du Congo. Il a failli être tué, ça a échoué parce qu'il y avait Mobutu et ses troupes qui étaient soutenues par la CIA.
Eh oui.
Ensuite, Cuba est allé en Éthiopie, 77, donc en Afrique de l'Est. Ils ont fait vraiment toute l'Afrique.
Alors, avec des résultats quand même, ou ils n'ont jamais véritablement réussi à imposer un pouvoir communiste
Ben, ils ont réussi vraiment à imposer Ben Bella en Algérie.
Oui.
Congo, ils ont échoué. Éthiopie, ils ont réussi à chasser la Somalie, qui avait des prétentions dans la région de l'Ogaden.
C'est ça.
En Guinée-Bissau, ils ont réussi parce qu'ils ont épaulé Amilcar Cabral du PAIGC, qui a fait l'indépendance en 1975.
Oui.
Il y a eu Cap-Vert aussi qui a fait son indépendance. En Angola, ils ont réussi. Hein. Ils ont réussi parce qu'en 1965... Cuba a soutenu militairement Augustino Neto et le MPLA qui ont réussi à proclamer l'indépendance en 1975.
Oui.
Sauf qu'en 1975, il y a eu une guerre civile parce qu'il n'y avait pas seulement le MPLA qui était comme mouvement de libération en Angola. Il y avait l'UNITA, il y avait le FNLA aussi. Sauf qu'en 1975, il n'y a que MPLA qui s'est imposé et qui a proclamé l'indépendance. Il était soutenu par l'Angola, par Cuba.
Et donc l'Angola est devenu un pays socialiste.
Pays socialiste. Mais l'Afrique du Sud, les États-Unis ne pouvaient pas accepter qu'un pays comme l'Angola, qui est riche en pétrole, soit socialiste.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, en 1975, ils ont envoyé une guerre, ils ont créé une guerre civile. Cuba ne pouvait pas rester insensible à ça. Il a envoyé 50 000 soldats en Angola. Finalement, il a réussi à maintenir au pouvoir le régime socialiste.
Oui.
Mais ce n'était pas suffisant pour l'Afrique du Sud et les États-Unis et l'UNITA. Ils ont attaqué en 1988 l'Angola pour renverser le régime.
Oui.
C'était une guerre sale. On ne peut pas parler de vainqueur lors de cette guerre de 1988. Il y a eu pas mal de morts. C'était l'enlisement. Finalement, les États-Unis ont proposé un traité tripartite qui opposait l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba. Qu'est-ce que contenait cet accord? L'Afrique du Sud renonce à envoyer l'Angola. La Namibie, qui était sous tutelle de l'Afrique du Sud, qui s'appelait à l'époque l'Afrique ouest africaine, je crois, et aller à l'indépendance. Et le dernier point, c'était le fait que les Cubains devaient rentrer chez eux. Alors, c'était une victoire politique pour Cuba, tout simplement parce que Cuba a réussi à sauver en Angola un pouvoir socialiste, un ami, et a prouvé à la face de l'Afrique, surtout en Afrique australe, que l'Afrique du Sud, qui était perçue comme une superpuissance, que la puissance d'Afrique du Sud pouvait être vulnérable et pouvait être mise en déroute.
Alors malgré tout, à la fin des années 80, Cuba est un petit peu exsangue et le soutien de l'URSS commence à se tarir. L'URSS qui chute à la fin, au début des années 90. Donc Cuba ensuite s'est retrouvé quand même bien isolé. J'imagine qu'il me semble me rappeler que l'intervention, en tout cas, de soldats cubains ailleurs dans le monde et en particulier en Afrique, s'est ralentie largement.
Ben, surtout en 88, après cette guerre qui n'a pas connu de vecteur, devenu de vaincu,
oui.
Les soldats ont quitté en 88. Mais avant de quitter, ils avaient vraiment soutenu, je peux le dire ici, des missions militaires au Bénin. Ils ont été au Bénin. Ils ont aidé des mouvements de libération en Zimbabwe, qui était à l'époque la Rhodésie, Mozambique aussi. Ils ont aidé aussi l'ANC de Mandela.
Ah oui.
D'ailleurs, Mandela a visité, lorsqu'il est sorti en 1991, sa première visite à l'extérieur, c'était c'était vraiment à Cuba. Il a été accueilli comme un héros, entre autres.
Oui.
Donc voilà. Donc, mais les temps ont changé. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre.
Il n'y a plus de guerre froide. Mm-hmm.
L'Union soviétique a des difficultés. Enfin, l'URSS n'existe plus. La Russie a des difficultés. Donc il y a l'embargo qui fait très mal.
La Russie post-soviétique continue-t-elle à soutenir un petit peu Cuba, à ta connaissance, ou est-ce que
À ma connaissance, parce qu'ils ont des difficultés, ouais. Et puis voilà, quoi, c'est plus la période, quoi. Il n'y a plus de guerre froide, quoi. Chacun essaie de se débrouiller. La Russie a des difficultés aussi, la Cuba aussi. En guise de dernier mot, si vous le permettez.
Oui.
Cuba a tout donné à l'Afrique. Hein. Il a envoyé ses enfants mourir dans des guerres de libération.
Oui.
Cuba a envoyé ses meilleurs médecins en Afrique lutter contre des maladies mortelles.
Oui.
Cuba a envoyé, accueilli dans ses universités, ses grandes écoles des enfants d'Afrique pour avoir une bonne formation. Sauf qu'il n'y a plus. Le Cuba n'a plus les moyens de pouvoir faire ça. L'Afrique doit être reconnaissante et tenter de voir comment elle peut aider Cuba, ne serait-ce que pour soutenir certains de ses. Le soutenir diplomatiquement.
Oui.
Ou alors, moi je crois que le soutien le plus efficace, ce serait de doter les jeunes Cubains à des bourses pour qu'ils aillent en Afrique étudier et revenir. Peut-être ça peut. Renforcer les relations entre l'île et l'Afrique.
Les relations entre Cuba et l'Afrique, des relations tumultueuses, complexes, mais passionnantes, culture, politique, il y a de quoi écrire des livres d'histoire et peut-être même des films, parce qu'il y a aussi beaucoup de secrets là-dedans et certainement des services secrets de différents pays qui sont intervenus, on le sait, plus ou moins sous couvert d'interventions politiques pour soutenir ou renverser certains pouvoirs. Mansour, merci beaucoup pour ce point toujours passionnant. Sur les pays d'Afrique et des Caraïbes.
Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt.
À très bientôt. Nous, on continue sur Choc FM 105.1.